Jésus est vivant et Jésus revient bientôt. Mais avant qu'il vienne, on a du travail à faire. Donc, ce matin, on va faire une belle déclaration de la foi. Comme toujours, on n'est pas ici juste parce que c'est dimanche matin, c'est la tradition et on n'a pas d'autre chose à faire. Mais nous sommes ici parce que nous croyons que c'est la volonté de Dieu qu'on soit là. Nous croyons que là où deux ou trois sont assemblés, qu'il est là au milieu de nous. Et si Jésus est vraiment là, si son Esprit Saint est vraiment là, qu'est-ce qu'il va faire? La même chose qu'il a toujours fait, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a jamais changé, hein? J'ai une nouvelle à vous annoncer. Jésus n'a pas changé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait il y a 2000 ans? Il va faire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il se promenait, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et ça, je sais, par exemple, que Jésus est vivant, il guérit aujourd'hui, il restaure les âmes aujourd'hui, il fait toutes ces choses aujourd'hui. Amen. Donc, on va faire cette déclaration qu'on aime faire parce qu'on croit que la Bible est inspirée de Dieu, on croit qu'elle a le pouvoir de nous changer. Donc, si vous avez votre Bible, prenez-la entre vos mains. Alléluia. Et avec cœur ce matin, comme si vous le croyez pour vrai, hein? Est-ce qu'il y a des gens que vous croyez pour vrai? Amen. On va dire ceci, voici ma Bible. Vérifiez si c'est vraiment la vôtre, non. Voici, ça m'est déjà arrivé, hein, d'avoir la Bible de quelqu'un d'autre. Mais voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole vivante de Dieu qui est établie dans les cieux. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais cette parole va me transformer de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Ça va nous changer. Et j'ai hâte de voir ce changement parce que c'est déjà bon qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est déjà bon qu'est-ce qu'il a fait dans notre Église. Mais on n'a rien vu à date. Hein? Si on pourrait voir aujourd'hui sur l'écran, hein, un petit clip vidéo de votre vie comme Dieu a destiné avant la fondation du monde, comment vous êtes supposé de terminer votre vie, je ne parle pas au ciel, mais ici sur la terre, comment vous êtes supposé de vivre dans la victoire et d'avoir toutes les bénédictions de Dieu en manifestation dans votre vie, vous serez vraiment, 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 vraiment encouragé. Amen? Mais, bonne nouvelle, on n'a pas besoin d'écran, on n'a pas besoin de clip vidéo, on a la parole. Donc ici, on voit qu'est-ce que Dieu voit pour nous et pour notre vie. Mais aujourd'hui, on va continuer notre série, Les citoyens du ciel. On a pas mal dit dans 6 semaines sur le sujet, mais il y a encore beaucoup plus à dire. On parle de citoyens du ciel, la ville céleste où on va vivre pour éternité. On pourrait parler pour une éternité sur les choses du ciel, n'est-ce pas? Mais en fait, notre objectif n'était pas forcément de mettre l'accent sur le ciel. Nous sommes les citoyens du ciel, mais nous vivons encore sur la terre. Et qu'est-ce qu'on veut voir, c'est comment le fait que nous sommes aujourd'hui les citoyens du ciel, comment ça devrait affecter notre vie terrestre? Comment est-ce que ça devrait changer notre comportement, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, les décisions qu'on va prendre? Tout doit être pris, cette décision doit être prise dans la lumière du fait que nous sommes les citoyens du ciel aujourd'hui même. Je ne serai pas un citoyen du ciel demain ou après l'enlèvement ou après ma mort. Je suis déjà et dorénavant citoyen du ciel. Amen. Donc, regardons, notre texte clé pour la série est encore Philippiens chapitre 3, versets 17 à 21. On va le lire. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. On va souligner ce mot ennemi encore aujourd'hui. Je vous le dis, je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc là, on voit que ceux qui vivent comme ennemis de Dieu, voici les caractéristiques encore, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne vivent que pour le plaisir et les choses charnelles et naturelles. Et eux autres, ils mettent leur gloire en ce qui devrait être honteux pour eux, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent pas plus loin que cette vie, ils ne pensent pas plus loin que cette terre. On devrait avoir notre horizon fixé beaucoup plus loin que cette vie terrestre, que cette terre et les choses qu'on voit dans le naturel. Mais, la parole de Dieu dit, notre cité à nous est dans les cieux. On va les dire ensemble. Notre cité à nous est dans les cieux. Et sachez, c'est une véritable ville. C'est une véritable place. C'est pas une place qui va exister dans le futur, ça existe déjà. En fait, il y a déjà des membres de notre famille qui sont rendus. C'est déjà là, notre ville. Amen. Et en fait, notre ville est au courant de qu'est-ce qui se passe à Drummondville. La Bible nous enseigne en Hébreux chapitre 12 que nous sommes entourés d'un nuage de témoins, que les personnes qui sont déjà rendues au ciel, ils peuvent voir qu'est-ce qui se passe dans l'esprit. En fait, on voit qu'ils sont en train de nous encourager. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, hein? C'est comme des personnes en train de regarder un match de hockey dans une stade. Ils voient un peu le combat spirituel que nous sommes en train de combattre. Ils voient la course que nous sommes en train de courir. Et la ville céleste est au courant de qu'est-ce qui se passe sur la terre. Il y a des anges célestes qui sont à l'œuvre. Et qu'est-ce qu'on fait sur la terre affecte qu'est-ce qui se passe au ciel et vice-versa. Amen? Et c'est vraiment quelque chose. C'est pourquoi j'ai lu cela mercredi soir. Matthieu chapitre 18 dit, et en vérité, je vous le dis, tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Donc, il y a quand même un lien entre le ciel et la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, priez que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre comme au ciel. Amen. Et c'est important. Donc, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc là, on voit, nous sommes les citoyens du ciel. Nous marchons ici sur la terre. Nous devrions avoir hâte de voir Jésus. Nous devrions avoir hâte de marcher sur les rues d'or. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a hâte de faire cela? Est-ce que vous avez hâte de voir la rivière de vie avec des eaux vives dedans? Est-ce que vous avez hâte de voir l'arbre de vie dont les feuilles servent pour la guérison des nations? Avez-vous hâte de voir ces 12 fondations et on voit les noms des 12 apôtres de l'agneau qui sont écrits dessus? Est-ce que vous avez hâte de voir les 12 portes de la vie? Moi, j'ai hâte de voir cela. Ça va être la beauté, ça va être merveilleux, ça va être incroyable. Il n'y a aucune larme, personne qui va avoir de la deuil, personne qui va être triste, personne qui va manquer quoi que ce soit. C'est le paradis. Bonne chose, n'est-ce pas? J'ai hâte de voir cela et moi j'ai l'assurance de voir cela. J'ai aucune doute. J'ai une place réservée pour moi. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je sais que j'ai la vie éternelle. Hein? En Jean chapitre 5, il dit, verset 13, « Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Donc, la vie éternelle ne commence pas après la mort. La vie éternelle ne commence pas lors de l'enlèvement. La vie éternelle commence dès que vous confessez Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je reçois la vie éternelle. Vous avez reçu la vie éternelle quand vous avez confessé Jésus. Donc, la vie éternelle a déjà commencé. Vous êtes déjà citoyen du ciel, sauf que vous êtes ici, sur la terre, comme un ambassadeur temporaire. Et vous avez une mission à accomplir. Mais qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui? est ce que j'ai vraiment à cœur. Et surtout parce que je sais que l'équipe d'évangélisation, on avait des choses de planifier pour aujourd'hui aussi. On a des personnes qu'on veut toucher avec un geste d'amour. On veut donner les bouteilles d'eau aux cyclistes, etc. On veut faire quelque chose de concret pour partager l'amour de Dieu. Mais je veux juste qu'on prenne quelques minutes ensemble pour penser, de réfléchir, que si nous sommes vraiment les citoyens du ciel, que notre préoccupation primordiale devrait être de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes que possible viennent avec nous au ciel. Il faut qu'on sache et il faut qu'on soit convaincu de la réalité, premièrement, de notre citoyenneté, mais il faut savoir en même temps que le monde entier a besoin de devenir citoyen du ciel aussi. Et que si les gens ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ils ne sont pas les citoyens du ciel. On peut dire notre cité à nous, c'est dans le ciel. Mais il est fort probable que votre voisin à vous ne peut pas dire la même chose. Il est fort probable que vos collègues au travail ne peuvent pas dire « ma cité à moi, c'est dans le ciel ». Et aussi, il est fort probable qu'ils sont dans l'ignorance à ce sujet. Et qu'ils ne savent même pas qui ne sont pas les citoyens du ciel. Ça se peut qu'ils croient être les citoyens du ciel sans savoir que ce n'est pas le cas. Et ça serait pour moi la chose la plus triste, de passer toute notre vie sans penser à ces personnes qui ont besoin de Jésus, sans penser au fait que ce n'est pas tout le monde qui a droit d'entrer dans la ville céleste. Il y a un verset en Apocalypse 22, et c'est dans vos notes. C'est marqué « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Afin d'avoir droit. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui a le droit de manger l'arbre de vie. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'entrer par les portes de la ville céleste. Moi, je n'ai pas le droit parce que j'ai gagné le droit. Et quand la Bible dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes », ce n'est pas moi qui ai lavé mes robes. Quand on parle des robes, ça parle de notre justice. Souvent dans les Écritures, la Bible va parler d'une robe qui parle d'une justice, qui signifie notre justice. Et on sait qu'en soi-même, notre justice est tout sale. Notre justice est insuffisante. Notre justice en nous-mêmes ne peut pas nous donner droit à la ville céleste. Moi, j'avais besoin de la justice de Dieu et j'avais besoin de recevoir sa grâce, sa miséricorde et le don de la justice en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la justice de Dieu en Jésus-Christ. La vie éternelle. Donc, je sais que c'est un peu sobre tout d'un coup, hein? Est-ce que vous êtes encore là? C'est vraiment une bonne nouvelle que j'ai annoncée ce matin. Mais pour avoir une bonne nouvelle, des fois, il faut donner la mauvaise nouvelle d'abord, n'est-ce pas? Hein? Et quelqu'un qui... Tu dis à quelqu'un que, hey, on vient de trouver un remède pour le sida. Et tu dis ça à quelqu'un qui n'est pas atteint par le sida. Il va dire, oh, que c'est bon. Je suis content pour ceux qui ont le sida. Ils vont être guéris. Mais tu annonces cette nouvelle à quelqu'un qui a le sida et qui sait qu'il a le sida. On vient de trouver le remède. Que tu peux être guéri, ça marche à 100%, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est juste une seule piqûre et tu es guéri pour la vie. Laisse-moi vous dire, cette personne va apprécier cette nouvelle, n'est-ce pas? Et c'est souvent, je pense qu'on fait une erreur parce qu'on ne dit pas toute la vérité. On va mettre l'accent sur le côté positif. Je vais en parler tantôt. Mais on ne peut pas mettre l'accent sur le positif en négligeant l'autre côté. La réalité, c'est que si vous ne connaissez pas Jésus-Christ de Nazareth, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas aller au ciel. Et même des chrétiens ne sont pas convaincus de cela. Pas convaincus. Vraiment, les personnes qui ne connaissent pas Dieu vont aller à l'enfer. Oui, ils vont aller à l'enfer. Et qu'est-ce qu'on va voir tantôt, c'est que Dieu ne veut pas qu'ils aillent à l'enfer. n'est pas son plan, ce n'est pas son désir, ce n'est pas qu'est-ce qu'il veut. Mais regarde bien qu'est-ce que ce verset dit en Apocalypse. « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Et dans le fond, laisse-moi vous dire, on était tous compris dans cette liste au moment donné. Parce que vous dites, oh, mais moi, j'ai jamais commis un meurtre. Mais laisse-moi vous dire, Jésus a dit, si vous haïssez votre frère, vous avez déjà commis le meurtre dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. Laisse-moi vous dire, sans Jésus, nous sommes tous faits. N'est-ce pas vrai? Sans Jésus, nous sommes tous faits. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est un Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde. Et même si nous avons péché, même si nous avons révolté, même si nous avons résisté à l'amour de Dieu, Dieu nous aime avec un amour infini et éternel, insondable, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils pour qu'on soit sauvés. Et si on regarde 2 Corinthiens chapitre 5, son plan pour chaque pécheur, c'est qu'il devienne une nouvelle création en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. C'est-à-dire que si vous étiez meurtrier, si vous étiez enchanteur, si vous étiez quelqu'un qui donnait pratiquait le mensonge, si vous étiez quelqu'un impudique ou idolâtre, maintenant, ces choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et vous pouvez dire comme l'apôtre Paul a dit, celui qui était meurtrier avant, Saul de Tarse a tué Étienne. Saul de Tarse a ravagé l'Église. Saul de Tarse a persécuté l'Église, mis les personnes en prison. Il a détruit les foyers au nom de la religion. Mais la même personne, née de nouveau, c'est pas la même personne, en 2 Corinthiens 7 dit, nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Comment est-ce que Saul de Tarse pourrait dire, j'ai fait tort à personne? Saul de Tarse ne peut pas. Saul de Tarse est mort en Jésus-Christ. Paul, l'apôtre, peut le dire. Amen. Et vous, je pense que ça serait une bonne idée des fois de changer notre nom lors de notre nouvelle naissance. Non, ce n'est pas une doctrine que là, je commence là. C'est juste une pensée, hein? Je pense à haute voix, là. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Est-ce que c'est futur ou passé? Il nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant que chrétienne aujourd'hui, notre première responsabilité, c'est d'être le ministre de la réconciliation. Car Dieu a été en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Donc ça, c'est une chose, je veux prendre le temps ce matin de réfléchir comme il faut, parce que ce message, une fois que c'est enraciné dans le cœur, va transformer votre vie chrétienne, ça va transformer cette Église. Et cette Église va avoir une croissance incroyable parce que nous allons vivre comme les ministres de la réconciliation. Amen. Et ce qu'on a besoin de savoir, en plusieurs choses que je veux souligner, des points qu'on connaît tous, au moins dans la tête, mais que je veux que ça devienne une révélation dans le cœur, c'est que le péché nous a rendus les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu. Ça, c'est le mot biblique. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui est trop dur en le disant, mais la Bible dit que le péché, je parle de la race humaine, nous a rendus les ennemis de Dieu. Et je ne sais pas ce qui vous concerne, je ne veux pas être l'ennemi de Dieu. Hein? Quand Dieu va au combat, Dieu gagne toujours. Je ne pense pas que je veux faire face à Dieu. Hein? Satan osait le faire. Lucifer osait croire qu'il était capable d'élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Et je ne sais pas comment, mais il a réussi à convaincre un tiers des anges qu'ils étaient capables de le faire. Mais ça n'a pas pris longtemps. C'est quelle farce en réalité, quelle farce de penser qu'on peut venir contre le Dieu Tout-Puissant. C'est impossible. Mais là, on voit quelque chose. Colossiens chapitre 1, 20. Dans vos notes, j'ai plusieurs choses qu'on va lire assez rapidement, mais pour vraiment vous donner plusieurs écritures pour méditer. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Ça parle de Jésus. Par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis. Je peux souligner ce mot autrefois, parce que ce verset est écrit aux chrétiens. Moi, je ne suis plus un ennemi de Dieu. J'étais ennemi de Dieu. Mais je ne suis plus un ennemi de Dieu. Amen? Tout le monde dit, je ne suis plus un ennemi de Dieu. Tout le monde dit,
Dieu est pour moi.
Qui peut être contre moi? Je ne suis pas un ennemi de Dieu, mais j'ai été ennemi de Dieu. Comment? Par mes pensées et par mes mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconcilié. Amen? Jacques 4,4 dit par exemple, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Wow, c'est fort, n'est-ce pas? C'est la Bible, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on lit les versets de la Bible, n'est-ce pas? C'est tout le conseil de Dieu. Vous me connaissez. Moi, j'aime prêcher la bonne nouvelle. J'aime prêcher que Dieu vous aime. Dieu veut vous bénir. Dieu veut que vous soyez prospères, guéris. Et Dieu veut que vous soyez remplis de son esprit, que vous viviez une vie victorieuse, n'est-ce pas? C'est tout vrai. Mais ça, c'est vrai aussi. Ça ne serait pas bon, hein, pour moi, hein? Comme l'apôtre Paul a dit aux anciennes de l'église d'Éphèse, aux Éphésiens, il a dit cela en Actes chapitre 20. Il a dit, je suis innocent du sang de vous tous parce que, hein, je vous ai prêché tout le conseil de Dieu. Et moi, je vous prêche tout le conseil de Dieu. Et tout le conseil de Dieu dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui aiment le monde, se rendent ennemis de Dieu. 1 Jean 5, 19 dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc voici la dure réalité. C'est que sur la planète Terre, on n'a que deux groupes de personnes. Ceux qui sont dans la famille de Dieu, qui sont nés de Dieu, qui sont les nouvelles créations et qui sont les citoyens du ciel, et ceux qui sont les ennemis de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos ennemis? Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné à faire? Aimer nos ennemis. C'est pas faisons attention. Et moi, je dis cela avec un esprit prophétique. Faisons attention parce que nous vivons dans un jour dangereux. Et on va voir de plus en plus les personnes dans ce monde qui vont tordre les paroles de l'Église et des chrétiens. Et on le voit de plus en plus. Et sous guise de protéger la société, sous guise de protéger l'humanité, ils vont nous étiqueter comme des personnes remplies de la haine. Mais la réalité, c'est que nous sommes un peuple rempli d'amour. Amen. Ça, c'est prophétique, qu'est-ce que je dis là. Faisons attention. Nous vivons dans un temps dangereux. Ce n'est pas pour vous faire peur. Mais juste soyez vigilants. Soyez vigilants. Parce qu'on vit dans un temps où l'ennemi est fâché. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Ils sont en train aujourd'hui de passer les lois dans certains pays pour protéger leurs citoyens. Et qu'est-ce qu'ils font? Même les chrétiens pourraient dire, ah, c'est bon. C'est bon. Et oui, c'est bon. Aujourd'hui, dans le contexte que la loi est passée. Mais demain, dans un autre contexte, la même loi pourrait être utilisée contre nous. Juste soyez avisés. Donc, je dis tout cela parce que c'est plus le temps de jouer. On est ici sur la terre pour une raison, avec une mission. On est les citoyens du ciel, mais il y a les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu sont aimés par Dieu. Mais Dieu est quand même un Dieu de justice. Dieu est quand même un Dieu qui va agir avec équité et avec vérité. Il y a un verset ici de la parole de Dieu. Et je sais que ce n'est pas mal sérieux ce matin. Mais c'est bon. Et deuxième chose que j'écris dans mon note, c'est que ces gens-là, ces gens qui sont les ennemis de Dieu, sont destinés à une ruine éternelle. Regardons. En fait, le verset qui est là, c'est 2 Thessaloniciens 1, 6 à 10. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, pour faire quoi? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est sérieux, n'est-ce pas? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints. Est-ce que vous êtes un de ses saints? Jésus revient et deux choses vont arriver quand il revient. Il va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et il va être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Est-ce que moi, je sais que je vais admirer le Seigneur quand il revient? Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Mais réalité aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a deux groupes de personnes, les citoyens du ciel et les ennemis de Dieu. Ceux qui sont pas dans la famille de Dieu sont destinés à une ruine éternelle. Mais Matthieu 25, 41, regardez bien le verset, il dit, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Remarquez bien une chose. Dieu va envoyer des personnes qui ne connaissent pas Jésus à l'enfer, mais il ne veut pas le faire. Il n'a pas le choix que de le faire. Comprenez-vous? Donc, ici, en fait, on peut souligner quelque chose, que le feu éternel a été préparé pour qui? Pour le diable et pour ses anges. Quand Dieu a créé l'enfer, il a créé pour un seul but, c'était de mettre le diable et ses anges là-dedans. Pourquoi? Parce que Lucifer est devenu l'ennemi de Dieu. Lucifer s'est levé contre Dieu. Lucifer a fait une révolte, une rébellion au ciel. Il voulait élever son trône au-dessus du trône du Tout-Puissant. Lucifer est devenu son ennemi. Lucifer était destiné à l'enfer. Mais malheureusement, Adam et Ève ont obéi à Lucifer. Ils sont devenus les esclaves de Lucifer, la propriété de Lucifer. On pourrait dire qu'ils sont devenus la propriété de Lucifer. Et automatiquement, forcément, tous ceux qui appartiennent à Lucifer sont dans la même catégorie, sont les ennemis de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, dit « Non, ça ne se peut pas. C'est ma création. C'est la prunelle de mes yeux. C'est mon amour. C'est la chose qui est le plus précieux à moi. Je ne peux pas laisser toute l'humanité aller à l'enfer avec mon ennemi Lucifer. Je ne peux pas. Il faut les réconcilier avec moi. Il faut rétablir la paix. Il faut aller chercher mes ennemis, enlever l'animité et faire en sorte qu'on soit ensemble, et qu'on soit une famille encore une fois. Et je ne peux pas laisser mon amour brûler à l'enfer. Je ne peux pas, mais en même temps, je n'ai pas le choix, car je suis Dieu, et je suis juste, et je suis équitable, et je suis saint. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait ce qu'il a planifié même avant de Dieu que la lumière soit. Il a envoyé son Fils. Et l'agneau immolé avant la fondation du monde a de sa propre volonté, de son propre gré, a pris une décision de venir et de s'humilier, de se dépouiller de sa divinité et de devenir semblable aux hommes et de marcher sur la planète comme un homme. Et Dieu lui-même était en Jésus-Christ. Dieu et homme. 100% Dieu, 100% homme. On avait une séparation entre les ennemis de Dieu et Dieu lui-même. Et Jésus, qui est à 100% Dieu et à 100% a fait le pont entre les deux. Et il a réconcilié. Dieu était en Jésus-Christ en réconciliant le monde avec lui. Comment est-ce qu'il a fait? La punition, Jésus, laisse-moi vous dire, le péché doit être puni. On ne peut pas être juste si on laisse le péché sans le punir. C'est pourquoi Jésus, quand il revient, il va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pas le choix. Sauf que, qu'est-ce que Dieu a fait dans son amour? Il a déjà puni son propre Fils. Il a déjà mis sur lui toute sa colère. Il a déjà laissé son propre Fils goûter à l'enfer. Goûter à la mort pour moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous les fardeaux, tous les péchés du monde entier, tout ce que le monde avait fait ou allait faire dans le futur est venu et tombé sur Jésus. Et la punition a été accomplie en Jésus. Amen. Mes péchés sont déjà punis en Jésus. Dieu m'a déjà réconcilié. Regardons dans vos notes. Dans son amour, Dieu nous a déjà réconciliés avec lui-même. Romains 5, 10 dit, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Ce n'est pas une chose que j'ai méritée. Vous n'avez pas mérité la vie éternelle. Mais dans l'amour infini et insondable de Dieu, Dieu a envoyé son Fils pour être puni et frappé et battu et torturé physiquement, émotionnellement et même spirituellement pour notre rédemption. Séparé d'avec le Père. Séparé d'avec le Père. Le Père a dû tourner son visage. Il a expérimenté la séparation d'avec son Père. Pour cette courte moment, mais c'est déjà trop. Il n'avait pas besoin de faire cela pour lui-même. Il a fait cela pour nous. Amen. Oh, est-ce que vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Est-ce que vous êtes content d'être réconcilié avec Dieu? Alléluia. C'est ça que la Bible a dit. On a lu cela en 2 Corinthiens 5. Hein, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est-à-dire que toutes les choses que j'ai faites, Jésus a déjà payé le prix. Je ne suis plus coupable. Je suis innocent. Alléluia. Tout le monde dit, je suis innocent. Je ne suis plus l'ennemi de Dieu. Je suis réconcilié. Avec mon Père. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut pour tout le monde. 2 Pierre 3, 9 dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde échappe des feux. Dieu ne veut pas envoyer un seul être humain à l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour les empêcher? Il a juste un plan. Il n'a pas de plan B. Savez-vous, la seule moyen pour une personne d'éviter l'enfer d'entrer au ciel, c'est de recevoir par la foi le Seigneur Jésus-Christ. Il faut invoquer le nom de l'Éternel. Mais comment est-ce qu'ils peuvent invoquer le nom à celui qui n'ont pas cru? Et comment est-ce qu'ils peuvent croire à celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment est-ce qu'ils vont entendre parler si personne prêche? Et comment est-ce qu'ils vont prêcher si personne ne les envoie.
le plan de Dieu. C'est tout simplement, uniquement, d'utiliser son Église comme les ministres de la réconciliation. Et il a mis en nous, il a confié à nous la parole de la réconciliation. En fait, il dit, vous êtes pardonnés, et maintenant c'est à vous d'aller annoncer à tout le monde que eux autres aussi, ils sont déjà pardonnés. Et si vous, si vous ne dites pas la bonne nouvelle, personne d'autre va le faire. Il n'y a pas un ange qui va le faire. Intéressant, n'est-ce pas, qu'un ange est apparu à Corneille. Et un ange n'a pas prêché l'évangile à Corneille. En Actes chapitre 10, un ange a dit, va chercher Pierre à Joppe. Et lui va venir vous expliquer le roi du salut. Pourquoi? Parce que les anges ne sont pas autorisés à prêcher l'évangile ou à annoncer la bonne nouvelle avant l'enlèvement. Et on voit seulement les anges qui prêchent un peu l'évangile après ou pendant la tribulation. Et jusqu'à quel point ils annoncent l'évangile, on n'est même pas sûr. Mais les anges ne peuvent pas le faire aujourd'hui, c'est à notre tour maintenant. Nous avons reçu gratuitement, c'est à nous de donner gratuitement. C'est comme la personne qui est atteinte du sida, et le médecin arrive et dit, voilà, je l'ai, le remède, prenez la piqûre, vous êtes guéri. Mais voici la seule chose. Hein? Il y a assez de sommes disponibles pour le monde entier. Tous ceux qui sont infectés peuvent avoir la même chose. Mais c'est à vous de faire la distribution. Faites quelque chose. Organisez-vous. Ramassez tous vos amis. Développez un plan, une stratégie si nécessaire, mais c'est à vous. Faites cela. Et c'est ça que Dieu a fait avec nous. Sauf que, avec le mandat, il nous a donné la puissance aussi. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Donc, on doit le faire, mais on ne le fait pas seul. On va voir que dans quelques minutes, on le fait avec lui. Donc, tout le monde dit, je suis un ministre de la réconciliation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre comme un bon ministre de la réconciliation? Il y a juste trois choses qu'on veut dire ce matin. Numéro un, mettez l'accent sur la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je prêche un peu sur l'enfer à vous autres. Et des fois, on peut mentionner l'enfer aux pécheurs parce qu'ils ont besoin de savoir des fois. Je m'en souviens des histoires, des... je sais que Donald, il peut en parler aussi parce qu'il a étudié beaucoup l'histoire de l'Église, etc. Et si on regarde dans l'histoire récente, 19e siècle, 20e siècle même, des rêves qui ont eu lieu en Amérique du Nord, les rêver avec les évangélistes comme Jonathan Edwards ou Charles Finney. Souvent, ces prédicateurs, ils prêchaient pendant des jours. Ils iraient dans une place, prêchaient une semaine, et pendant 2-3 jours, ils ne prêchaient que sur l'enfer. Et les personnes, littéralement, ils tremblaient dans leur siège. C'est vrai, n'est-ce pas? Ils donnaient le problème avant de donner le remède. Laisse-moi vous dire, quand les personnes ont accepté le Seigneur, ils voulaient accepter le Seigneur. Ils venaient à chaque soir en espérant, est-ce qu'il va me dire quoi faire pour être sauvé? En quelque part, on a perdu cet aspect. Et je pense qu'en quelque part, c'est parce que les gens ont essayé de faire ça dans la chair. Ils ont essayé de faire peur au monde. Ce n'est pas ça qu'on veut faire. Jésus n'a pas vraiment dit « aller prêcher l'enfer ». Il a dit « aller prêcher quoi? La bonne nouvelle ». Donc, mettez l'accent sur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole de la réconciliation. Ce n'est pas une parole de condamnation, c'est une parole de réconciliation. La bonne nouvelle, c'est que vos dettes sont déjà payées. Imaginez si quelqu'un viendrait vous voir, un homme, un milliardaire, dirait, j'ai à cœur de payer toutes vos dettes, toutes vos cartes de crédit, si vous devez quelque chose à qui que ce soit, tout est payé, tout est réglé, je vais mettre encore 1 million dans votre compte au cas où que vous avez besoin d'une couche de fond. Mais c'est pas juste ça? Et ça, il m'en reste beaucoup, beaucoup après ça. En fait, j'ai assez pour faire la même chose pour tous ceux qui habitent sur cette rue-là. Et si vous, maintenant, Voici la seule condition. Je fais ça pour vous, mais je compte sur vous d'aller annoncer cette bonne nouvelle à tous vos voisinages. Je ne pense pas qu'on aurait honte de faire cela. Hein? Quand on est la porte, j'ai une bonne nouvelle. Hein? Je suis millionnaire et vous aussi. Vous avez juste besoin de signer un petit papier et toutes vos dettes sont réglées. On va faire un dépôt direct dans votre compte et vous êtes millionnaire. Il y a sûrement des personnes qui vont fermer la porte dans votre visage. Il est fou. Et ça se peut qu'ils vont faire la même chose pour nous. Ils vont, quand on dit, vous êtes déjà pardonné. Jésus a déjà payé le prix. Vous n'êtes plus obligé d'aller à l'enfer. Le ciel est déjà acheté par vous, par le sang de Jésus. Il y a des personnes qui vont dire, non, ça ne se peut pas. Mais ça, c'est leur problème à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais regardons bien. Mettez l'accent sur la bonne nouvelle. Marc 16, 15, Jésus a dit, puis il leur dit, allez par tout le monde. Tout le monde dit tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je crois qu'un gros problème dans l'Église, quand je parle de l'Église en général, des Églises, c'est qu'on ne prêche pas la bonne nouvelle. On ne prêche pas que Dieu est bon, que Dieu vous a déjà pardonné, qu'il veut que vous soyez guéris, qu'il veut que les démons soient chassés de votre vie. On dit, ah, viens à Jésus. Ça se peut qu'il va vous faire souffrir beaucoup, 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 beaucoup. Il va vous envoyer toutes sortes de problèmes, des maladies, des problèmes pour vous enseigner plein de choses. Et si vous toffez assez longtemps, peut-être vous allez avoir la chance d'aller au ciel. Non. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà pardonné, déjà guéri, vos besoins sont déjà pourvus en Jésus-Christ. C'est une très bonne nouvelle. C'est pourquoi Paul a dit, « J'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. » Le mot « salut », c'est « soteria », qui en grec veut dire littéralement « salut »,« délivrance », »,« raison saine » et « guérison ». C'est la puissance de Dieu pour votre salut, pour votre délivrance, pour votre raison saine et même pour votre guérison. Je n'ai pas honte de la puissance de Dieu. Et vous? Numéro 2, vivez chaque jour comme un ambassadeur pour Christ. À tous les jours, on devrait se lever debout en disant, « Seigneur, merci, je suis réconcilié avec toi. Je suis citoyen du ciel. Mais Seigneur, il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore droit d'entrer dans la ville parce que leur nom n'est pas dans le livre de vie. Ils ont besoin de recevoir cette parole de réconciliation que tu m'as confiée. » Et si un enfant de Dieu annonce pas cette bonne nouvelle, ils vont pas pouvoir recevoir. Seigneur, aujourd'hui, fais quelque chose. Donne-moi une occasion favorable pour annoncer ta parole. Donne à mes frères et mes sœurs dans le corps de Christ des occasions favorables. Ouvrez les portes pour les autres personnes dans l'Église pour partager la bonne nouvelle. Que Dieu les aime, que Dieu a envoyé son Fils, que Dieu les a déjà pardonnés, les a déjà sauvés. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Paul a même prié ceci. En Éphésiens 6, 19, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Vous, moi, nous avons besoin de parler avec assurance. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Regarde qu'est-ce que Dieu a dit à Paul, en Actes 26, 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Avez-vous capté la puissance dans ce verset? Afin que tu leur ouvres les yeux. Savez-vous que les yeux de la plupart du monde sont fermés aujourd'hui? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Le monde entier est dans les ténèbres aujourd'hui, à moins de connaître Jésus. Et la puissance de Satan à Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. mais nous avons le pouvoir, l'autorité et même le mandat d'aller les aider à être transportés du royaume des ténèbres et nés de nouveau dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ceux qui sont les citoyens de l'enfer aujourd'hui peuvent devenir citoyens du ciel aujourd'hui. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Numéro 3. Ne travaillez pas pour Dieu, mais avec lui. Savez-vous, le texte qu'on a lu en 2 Corinthiens 5 disait qu'à Dieu était en Christ, nous réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. On va le dire ensemble. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je pense qu'on a besoin de cette conviction que quand on prêche l'Évangile, on ne travaille pas pour Dieu, mais on travaille avec Dieu. Si vous dites, moi, je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire. Oui, peut-être en vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Mais avec Dieu, vous pouvez tout faire. Et si vous savez qu'est-ce que la parole de Dieu dit, 2 Corinthiens 6, 1 dit, puisque nous travaillons avec Dieu, on va le dire ensemble, nous travaillons avec Dieu. Êtes-vous d'accord que si Dieu est votre partenaire, que vous ne pouvez pas trébucher? Si Dieu est votre partenaire, vous ne pouvez pas échouer? Si Dieu est votre partenaire, le succès, vous êtes assuré. Et on voit cela en Marc 16, chapitre 16 et verset 20. On a déjà lu verset 15 où Jésus a dit, « Allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Et continue, « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et puis, il continue ici en verset 20 de Marc 16, et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils n'ont pas entendu, oh Seigneur, je vais juste attendre jusqu'à ce que tu me dises quoi faire. Il a déjà dit quoi faire, allez prêcher. Et à moins que le Seigneur vous donne un feu rouge, allez, vous avez déjà le feu vert. Amen. Allez prêcher partout. Le Seigneur faisait quoi? Le Seigneur s'est assis au ciel, s'est croisé les bras, regardait de loin en disant, « J'espère qu'ils vont être capables de faire ce job. Je compte sur eux. » Non. Le Seigneur lui-même travaillait avec eux. Travaillait avec eux. Et qu'est-ce qu'il faisait pour travailler avec eux? Il travaillait avec eux et confirmait quoi? La parole par les miracles qu'il accompagnait. Quelle parole est-ce confirmée? Je crois qu'il confirmait la parole de la réconciliation qu'ils étaient en train de prêcher. La parole de la bonne nouvelle qu'ils étaient en train de prêcher. C'est ça que Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Ils sont allés prêcher partout. Qu'est-ce qu'ils prêchaient? La bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Jésus a pris votre place. Jésus était puni à votre place. Jésus vous a réconcilié avec Dieu. Vos péchés ne sont plus imputés contre vous. Vous êtes déjà, dorénavant, pardonné. Si vous allez à l'enfer, c'est de votre faute parce que Jésus a déjà payé le prix. Amen. Personne ne peut blâmer Dieu en disant que Dieu n'est pas juste, Dieu est méchant, Dieu n'est pas gentil parce qu'il envoie des personnes à l'enfer. Non, il a souffert lui-même pour nous donner le droit d'entrer au ciel. Bonne nouvelle. Jérémie 1:12 dit, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Je crois qu'on a besoin d'avoir cette conviction que quand j'ouvre la bouche pour annoncer la bonne nouvelle, la parole de la réconciliation à qui que ce soit, que Dieu est avec moi, le Saint-Esprit est là, il veille sur sa parole et il confirme sa parole. Avec des signes, avec des miracles, avec des prodiges, avec la conviction de l'Esprit Saint, Dieu fait l'œuvre. C'est pas moi. C'est pourquoi personne ne peut se glorifier. Personne ne peut se vanter. Une personne qui dit, « Oh, j'ai amené 10 000 personnes au Seigneur. » Tant mieux. tu as travaillé bien avec Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. On ne travaille pas pour Dieu. Oh Seigneur, j'ai fait une belle chose pour toi aujourd'hui, hein? On ne fait pas des belles choses pour Dieu. Dieu a déjà tout fait pour nous. On fait des belles choses avec Dieu. Amen. Dieu veille sur sa parole. Mais ayons la vieillesse et l'assurance pour prêcher cette parole de réconciliation. En sachant que Dieu est là, que c'est ce qu'il veut plus que toute autre chose. Alléluia. Pour travailler avec Dieu, il faut faire ce que Dieu fait. Souvent, on pense que c'est le contraire. On fait notre affaire, on dit, Seigneur, aide-moi. Viens m'aider, Seigneur, dans mon travail. Viens m'aider dans mon travail, Seigneur. Et Dieu dit, non, viens m'aider dans mon travail. Viens m'aider dans mon travail. Je sais quoi faire, je sais comment faire, j'ai la puissance pour faire, ça marche quand je le fais, et tu vas bénir en le faisant. C'est beaucoup plus de fun de travailler de ce côté-là. Amen. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est on va plus au travail dans le naturel, on fait plus des choses? Non. On fait toutes ces choses. Et c'est même dans le contexte de ces choses naturelles que le ministère de la réconciliation se fait. Hein? Moi, je crois que souvent, les personnes que je connais, par exemple, qui ont eu le plus d'influence dans ma vie spirituelle, ma vie, si je pense à mon héritage spirituel, ma mère, c'est elle qui m'a amené au Seigneur dans le fond. Comment est-ce qu'elle est devenue chrétienne? C'était une femme qui essayait de vivre une vie monoparentale, élever deux garçons, travailler comme à temps plein comme professeur d'école, brûlée, déprimée, ne savait plus quoi faire. Elle avait besoin de rencontrer son agent d'assurance, négocier des primes. Et puis, l'agent d'assurance a remarqué la déprime, la dépression, et ce ministre de la réconciliation a tout simplement commencé à parler avec ma mère et a dit, tu sais quoi, il y a un autre moyen, il y a une autre chose. Il faisait son travail. Amen. Il faisait son travail, mais il était quand même assez intelligent pour savoir qu'il avait une occasion nouvelle. Ça prend un équilibre, ça prend la sagesse. Faites attention quand vous êtes au travail, pas juste commencer à prêcher à tout le monde. Laissez votre lumière briller. Et quand les gens vous posent des questions, vous serez à mesure de répondre. Vous êtes payé pour travailler, donc travaillez. Vous n'êtes pas payé pour prêcher. Hein? Ça, c'est juste un peu d'équilibre, là. Hein? Mais elle était touchée, née de nouveau. Mais puis, un autre jeune homme qui avait... Ça, c'est une longue histoire. Qui avait une histoire lourde et noire. Qui était au travail un jour et qui était le mouton noir de sa famille. Et c'est un collègue de travail qui lui a amené au Seigneur. Et, au travail. Et c'est ce monsieur-là qui a amené ma mère, mon frère et moi à l'église pour la première fois quand j'avais 9 ans. C'est lui qui a fait l'école biblique et qui a commencé dans le ministère et qui a eu une influence sur moi et qui m'a encouragé d'aller à l'école biblique. Et je suis dans le ministère aujourd'hui en grande partie grâce à lui. Mais encore, c'était un homme qui faisait des choses naturelles, qui était au travail, fidèle à sa poste, un bon employé, mais qui était quand même un ministre de la réconciliation. Donc, on est des ministres de la réconciliation. Dieu nous a confié la parole de la réconciliation. Travaillons avec Dieu et on va voir, cette église va grandir. Pas juste cette église, mais je crois que les autres églises aussi parce que c'est le temps. Mais cette église va grandir si on met en pratique cette parole, si on fait ce que la parole de Dieu dit. On va se lever debout, on va prier. Il est quelle heure? Pas vrai. Ça doit être un signe. Hein? J'aurais terminé plus tôt, mais j'aurais pas dit tout. Mais regarde, ma montre dit il est midi moins 20, moins 19. C'est pas une farce, hein? Mais vous savez qu'est-ce que ça signifie une montre pour un prédicateur?
Rien.
Rien, non. Mais je regardais ma montre en couple de fois, je dis, ah, oh, mais j'ai encore du temps, j'ai encore du temps. Tant mieux. Tant mieux. On avait besoin de dire ces choses. Merci, Père Céleste, avec tous les yeux fermés. Père, nous te remercions pour ta présence. Merci, Seigneur, que nous sommes les citoyens du ciel, que la ville céleste est à nous. Et Seigneur, on te remercie pour le privilège et l'honneur d'être appelés les ministres de la réconciliation. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour chaque personne ici présente, qu'on puisse prendre ces paroles et la mettre en pratique. Et juste avec tous les yeux fermés, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, pasteur, si je suis honnête avec vous et avec Dieu et avec moi-même, je n'ai pas vraiment l'assurance d'avoir reçu la réconciliation que Dieu m'a offert en Jésus-Christ. Peut-être vous êtes ici et vous n'êtes pas certain que votre nom est écrit dans le livre de vie. Vous aimeriez y croire, mais vous n'êtes pas sûr et certain que vous avez une place réservée pour vous au ciel. Si c'est le cas, la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous a réconcilié avec lui-même en Jésus-Christ. Et que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé, que tu peux recevoir la vie éternelle maintenant même. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un avec les autres yeux fermés qui dirait, oui, pasteur, je veux lever ma main, je veux dire, que je veux que tu pries pour moi, je veux donner ma vie à Jésus. Juste lever la main, si vous êtes là, vous avez besoin de recevoir Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne? C'est sérieux. C'est une question entre la vie et la mort, l'enfer et le ciel. Sérieux. Recevez la grâce de Dieu. Ne résistez pas. C'est quelqu'un? Sinon, peut-être tout le monde ici est déjà né de nouveau, et tant mieux si c'est le cas. Donc, on a besoin de recevoir la puissance de l'Esprit Saint. On a besoin de recevoir cette exhortation de vivre comme les ministres de la réconciliation. Je veux juste savoir, s'il y a peut-être quelqu'un ici qui dirait, moi, je suis sauvé, né de nouveau, je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie, mais je n'ai jamais reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence initiale de parler en langue, et j'ai besoin de cela. Car la Bible dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Essayez pas de témoigner sans la puissance de l'Esprit-Saint. Ça ne marche pas bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, ça, c'est une chose dont j'ai besoin? Je levais la main. Personne? Tout le monde ici parle en langue. Tout le monde est baptisé de l'Esprit-Saint. J'espère que oui. Vous avez besoin de cela. Jésus a même dit à ses disciples, vous êtes témoins de ces choses, mais attendez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Essayez pas d'aller témoigner. Essayez pas de faire les exploits sans être revêtus d'en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cela? On a des gens qui sont prêts à prier avec vous pour cela. On a eu plusieurs qui ont reçu la semaine passée et c'est merveilleux. Plusieurs. Alléluia. Merci Père Céleste. Priez avec moi. Père, au nom de Jésus. Merci que je suis réconcilié. Je ne suis plus un ennemi, mais je suis ton ami. Et j'ai reçu la parole de la réconciliation. Et tu m'as rendu capable d'être un ministre de la réconciliation. Merci Père Céleste que tu vas m'aider à prêcher la bonne nouvelle, de vivre comme un ambassadeur et de ne pas travailler pour toi, mais de travailler avec toi, au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, on va faire un dernier chant pour terminer. Tenez-moi, on va...